Bienvenue à toi, cher auditeur ou chère auditrice, sur le podcast The Bike Riser. Ce podcast-là, il s'occupe de faire reculer les préjugés qu'on a sur les sans-abri. Pour ça, on leur donne la parole. Et sur cet épisode, eh bien, tu vas entendre Max sur le sujet des squats. Max, il est à la rue depuis l'âge de 16 ans, il en a eu près d'une dizaine. Et c'est le sujet du moment parce qu'on est en été et l'objectif avant la rentrée, c'est de nettoyer la ville. Donc on va en apprendre un peu plus sur le squat, les logements, les conditions, les compagnons. Voilà, allez, on attaque.
C'est parce que là, ce qui se passe, c'est qu'il y a les camps qui se font dégager. Bah, là, tu viens m'en parler et tout. Donc là, l'idée, c'est de faire un petit échange autour du squat,
ouais,
et du logement en général. Ça va être stylé, ça va être simple.
Ça marche.
Ok, tu t'appelleras M.
Ouais.
Costaud M. M, on s'est rencontrés, ça fait combien de temps maintenant?
Ça fait 2-3 mois.
Ouais,
deux mois.
Il faisait un peu plus froid qu'aujourd'hui.
Carrément.
T'as rappelé, t'avais même une veste. T'as une veste et tout, on s'est rencontrés au Monoprix.
Monoprix, je faisais la manche avec une amie à moi.
Et depuis, c'est passé un tas de trucs quand même.
Ah, et pas mal de squats, pas mal d'explosions.
On pourrait faire un épisode sur ce qui s'est passé. Enfin bref, on va parler ensemble des, comme on l'a dit, des expulsions, tout ce qui est squat, parce que là le sujet de l'été pour les gens qui sont à la rue, c'est l'objectif pour les forces de police, on va dire, c'est préfecture, c'est de faire que à la rentrée
il n'y ait plus de squat.
Bon, allez, droit au but. T'as eu combien de squats dans ta vie de rue?
Oula, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, une dizaine en 4 ans, même plus.
Ouais. C'est plus de 4 ans.
Ça fait... Ouais, c'est 4ème année là.
4ème année. Cool. Tu me racontes ton premier squat, c'était où, comment?
Alors c'était à la gare, à Clermont-Ferrand. Il y avait un petit immeuble avec plein d'appartements et une trentaine d'appartements vides. Et les gars avaient décidé d'en squatter quelques-uns. Et on était 4, on avait chacun un appartement, c'était le premier squat qu'on a eu quoi.
Chacun avait un appart
et ils étaient meublés. Donc on a vécu dedans pas mal de temps, les flics sont jamais venus. Ils sont jamais venus. C'est les voisins qui ont y a eu des soucis, donc on a dû partir. On est parti. Et après on a été dehors, on a trouvé d'autres squats et ainsi de suite. Comme d'habitude, c'était le premier squat de ma vie celui-là.
D'accord. C'est bizarre, tu m'avais parlé de la maison de ton père comme premier.
C'est vrai.
Quel âge?
J'avais 16 ans. 15 ans, 16 ans. Quand mes parents m'ont abandonné, du coup ils ont abandonné une maison. Et cette maison, ils l'ont laissée vide, avec juste ma chambre intacte. Et du coup, c'est la première maison que j'ai squattée quoi. C'était celle-là.
Tu vivais dans combien de mètres carrés?
J'avais 10 mètres carrés pour ma chambre. Et il y avait le reste de la maison, mais il y avait 100 mètres carrés à peu près. Un peu moins. Quelque chose comme ça.
C'était dans une grande ville ou?
C'était une toute petite ville, une petite ville de 2000 habitants, à la campagne, où c'est vraiment très dur de survivre en étant à la rue. Les gens pensent qu'à la campagne c'est plus simple, mais non, c'est encore plus compliqué.
Pourquoi?
Parce que les gens dans les grandes villes, les gens ils donnent un peu de tout, des vêtements, des chaussures, tout. À la campagne ils donnent rien de tout ça. Ils peuvent donner. Si on veut travailler avec des gens qui font des champs, on peut travailler, on peut se débrouiller. Mais ils sont pas là à donner des vêtements, à donner de la nourriture, à donner. C'est plus compliqué, beaucoup plus compliqué. Même pour l'argent, les gens donnent très peu d'argent à la campagne quoi. C'est beaucoup plus compliqué.
Du coup, c'est comment son premier squat comme l'ancienne maison de famille? Ça donne quoi?
C'est compliqué. Au niveau mentalement, c'est très très compliqué, tu vois, tu réagis pas pareil que c'est un squat de n'importe qui quoi. C'est ton ancienne maison que tu squattes quoi, c'est compliqué.
T'avais squatté avec d'autres gens, tout seul?
Ouais, j'étais tout seul.
Tout seul,
ouais.
Du coup, c'était comment le mode survivor à 16 ans? Parce que t'avais pas de... Ouais, on rappelle que le RSA, on n'en parle même pas, c'est moins de 5 ans. Donc du coup, tu survis avec quoi, comment?
Bah, je montais dans la grande ville, à Clermont-Ferrand, je faisais ma manche et tout la journée. Je récupérais tout ce que j'avais besoin de récupérer, nourriture, eau, tout ça, et je redescendais le soir dans là-bas, je dormais, et le lendemain midi ou au début d'après-midi, je repartais, et ainsi de suite. De temps en temps, je squattais à Clermont chez des amis, à droite à gauche, mais sinon, je retournais à la maison, quoi.
Bien. Donc ça, c'était le premier inofficiel
squat. Inofficiel squat.
Ouais.
C'est ça.
Le dernier?
Le dernier, c'était là, hier, avant-hier, hier. On avait une cave avec mon meilleur ami comme mon frère, en fait. On avait une petite cave qu'il avait trouvée, qu'on avait aménagée avec un sommier, un matelas, une armoire, une table basse.
On parle de combien de mètres carrés, là?
7 mètres carrés, 8 mètres carrés, même
vous
pas.
Vous êtes combien là-dedans?
Deux, et on est resté 3 semaines. 3 semaines à peu près, ouais. Et hier, les flics sont venus, hier matin, à 10h30. Ils sont venus, ils ont ouvert la porte, ils sont rentrés, ils nous ont demandé nos papiers d'identité. On les avait pas, moi j'avais juste un papier attestant mon nom et mon prénom que je leur ai donné. Ils nous ont dit, en remontant, on vous laisse le temps de préparer vos affaires et partez. On a pris nos affaires, on est parti. Il nous expliquait qu'il y avait une dégradation de la porte, comme qu'on avait cassé la porte pour entrer, alors qu'aucunement, il n'y avait même pas de barrière à la porte. Donc la porte était déjà ouverte quand on est arrivé, on s'est juste installé. Et non, il n'y a eu aucune infraction, ils nous ont demandé de partir, on est parti quoi. Parce qu'ils voulaient nous mettre une infraction sur le dos alors qu'il n'y a rien de tout ça, rien du tout. On a pris les affaires, on s'est barré. Hier soir, on a dormi dans un garage juste à côté, qu'on connaissait. Et on a été retourné voir dans la cave, rien n'a bougé, les portes sont encore ouvertes. Il y a toutes les affaires dedans encore qu'on n'a pas pu prendre. C'est quand même hallucinant.
Je t'ai connu en abri de fortune, je t'ai connu en rue. Là, tu parles de toi en squat. Question de merde, mais profonde. Qu'est-ce qui t'oblige à devoir squatter aujourd'hui? Est-ce que c'est un plaisir, une obligation? C'est quoi le contexte?
Le truc, c'est que je ne veux pas dormir à même la rue, dehors, devant tout le monde, la pleine nuit, juste pour les affaires, pour mon chien, pour ne pas se faire voler ou pour X raisons. On est quand même une pseudo-sécurité dans un squat. Même si on peut se faire expulser ou même s'il peut se passer n'importe quoi, on a une pseudo-sécurité et on peut dormir tranquillement, on va dire. On n'est pas obligé de se faire lever tous les matins à 7h30 par les flics. Parce que si je dors dehors ou même dans des petits endroits reculés, on se fait lever tous les matins à 7h30. Parce qu'il y a ordre du maire de Lyon, les SDF ont le droit de dormir de 22h à 7h30 du matin. 7h30 du matin, ils doivent tout remballer et partir. Sinon, c'est garde à vue si on refuse de bouger. Donc c'est mieux en squat, ça me permet de dormir un petit peu plus longtemps et d'être plus tranquille quoi.
Cool. Alors il y a un sujet vous concernant, c'est que vous étiez aussi dans ce qu'on appelle un abri de fortune. Un abri de fortune, c'est entre un squat et dormir dans la rue. Donc ça peut être des barrières avec un petit campement. Voilà, faut pas réfléchir à une tente, faut plutôt réfléchir à des barrières qui encerclent un lieu urbain. Et d'ailleurs on n'est pas loin là, parce qu'on est au Cordelier, la pharmacie Cordelier. C'est là que ça s'était passé. Bref, on s'en fout, il y avait plein de gars là-bas. Tu me racontes l'histoire? Parce que là, du coup, on est dans de l'hébergement et c'était pendant le confinement d'ailleurs.
C'était juste avant le confinement. On avait tenu un mois avant le confinement et le confinement est arrivé. On squattait à côté d'une pharmacie de Place République, avant Cordelier.
Alors, on utilise le terme squatter pour ceux qui écoutent, mais il faut comprendre que c'est comme dormir à la rue, un abri de fortune. Ouais,
voilà, c'est pareil.
C'est juste que vous êtes protégé avec des barrières, voilà, et du coup, vous avez une entrée unique, donc vous n'êtes pas accessible corporellement de partout.
C'est ça. En gros, la ville, il y avait des gens qui squattaient avant nous cet endroit. Ils ont mis des barrières, des grandes herses, pour empêcher les gens d'accéder derrière et de squatter justement. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ouvert ces herses, on est passé derrière, on a couvert les herses avec des couvertures, mais vraiment une assez bonne distance quand même. Ça, il y avait quoi, il y avait 20 mètres carrés, je sais pas, j'exagère peut-être, à peu près 15 mètres carrés.
Voilà, on a couvert. Vous étiez combien là-dedans?
On a été 4-5, après on a été 2 ou 3, et à la fin on était 3-4, 3
à la fin. Jusqu'à 3-4 dans 20 mètres carrés, et là on parlait de 7 mètres carrés avec la cave, donc pour donner des idées.
C'est ça.
Comment ça s'organise du coup la vie dans un abri de fortune?
Bah, on a trouvé des matelas, on a mis un matelas double, un matelas simple avec des palettes pour faire un sommier en dessous. On a fait un coin où c'était stockage de nourriture, un peu couvert pour que ce reste frais, enfin on s'est débrouillé dans un caddie, on a fait ça à l'arrache, mais ça tenait. Et un petit coin où c'était pour les chiens, pour qu'ils puissent manger, et un coin où c'était le seau avec la serpillière et le balai et les pelles pour pouvoir justement passer le balai et tout ça. On avait mis une poubelle histoire que ça reste propre et qu'on n'est pas des clochards, on est des SDF, enfin on reste propre, on s'organise, on se lave tous les jours, enfin on se débrouille quoi. Et non, c'était propre quoi, enfin on s'organisait côté comme un Tetris quoi, chaque côté à son utilisation quoi, c'était comme ça.
Et ça a fini comment du coup l'abri de fortune?
Ça a fini qu'on a tenu pendant 3-4 mois en tout, et qu'après bah, confinement, fin de milieu de confinement, la ville est venue, ils nous ont dit que les voisins avaient appelé, qu'il fallait qu'on dégage parce que coronavirus, il fallait qu'ils nettoient au cas où qu'il y ait des maladies, des choses comme ça. Donc ils nous ont fait bouger.
Donc ils ont nettoyé et vous ont laissé du coup?
Ils nous ont fait prendre toutes les affaires et dégager, ils ont à moitié trempé les affaires au Karcher parce qu'il fallait qu'on dégage vite. Du coup ils ont nettoyé au Karcher, ils nous ont dit qu'on pouvait retourner à la base. Ce qui s'est passé, c'est que la nationale est arrivée et la nationale sont mis devant, et, enfin sur le côté, nous ont menacé de nous gazer si on y retournait. Donc on a dû prendre toutes les affaires et se barrer pour pas se faire gazer ou pour pas risquer une interpellation, une mise en garde à vue quoi.
C'est marrant que tu parles des voisins, parce que donc du coup bon, il s'avère que c'était une décision plutôt de la ville, hein, pour
c'était
la pharmacie,
plutôt de la ville.
Parce qu'il est important aussi de comprendre les conséquences de comment on quitte un squat. Je pense que la cave que vous avez eue récemment, c'était un signalement des voisins ou quelque chose comme ça.
Il y a eu des enfants qui sont descendus et mon chien a entendu les enfants descendre, donc il a aboyé pour nous prévenir, et ils ont dû le dire à leurs parents et ainsi de suite.
Ouais, c'est des conséquences.
C'est des conséquences de bêtes.
Et celui donc du coup où t'es resté le plus longtemps, c'était, tu me disais...
Le squat à Clermont-Ferrand.
La gare.
Non, pas la gare. Celui qu'on a eu dans le centre de Clermont-Ferrand, c'est un autre squat.
Encore un autre, donc là vous êtes resté combien de temps là?
On est resté entre un an et demi et deux ans, pratiquement deux ans. Il y avait trois petits appartements dans un immeuble abandonné. La proprio était décédée, donc ça appartenait à personne. On a ouvert les portes de chaque appartement, on s'est installé, on avait chacun notre appartement avec l'eau, l'électricité, plaque électrique, machine à laver. La porte en bas de l'immeuble était ouverte. Donc l'immeuble est un peu désert, on est rentré, on a vu que personne n'y habitait, on a surveillé, on a vu l'appartement d'en haut, on a squatté au début l'appartement d'en haut. Le premier c'était celui d'en haut où il y avait l'eau, l'électricité, et ensuite petit à petit on a ouvert le deuxième et celui du premier après. Et on a mis machine à laver, télé, plaque électrique, on a tout remis bien, avec un frigo, tout ça, et on vivait comme dans des vrais appartements, quoi. Moi, je travaillais au Black pendant ce moment-là, j'étais plaquiste peintre, donc ça me permettait d'avoir une stabilité pour me laver, pour avoir des affaires, pour pouvoir travailler convenablement.
Vous étiez combien dans ce squat ?
On a été, au minimum, on a été 3, 4 au minimum.
Et au maximum, 57.
Non, au maximum, on a été une dizaine, okay. Un peu plus d'une dizaine, ouais.
Ça se passe comment, la vie en communauté dans un squat ?
C'est compliqué.
Ouais.
Parce que enfin, on a tous notre caractère différent, ça peut arriver qu'on s'embrouille, mais ça tenait parce qu'on avait tous un endroit décent où vivre et que des conditions acceptables.
Donc c'est qui décide qui rentre ou pas dans un squat ? Genre moi je peux venir, qui peut venir ?
On était trois décidés.
Ok, les trois qui avaient ouvert,
en gros,
qui étaient rentrés.
Au début, il y avait moi et mon collègue Johan, c'était nous deux qui étions rentrés. On a intégré un autre gars qui était à la rue, mais qui squattait à droite à gauche chez des gens, et c'était lui, c'était son endroit aussi à lui, quoi. C'était son endroit de secours, c'était à nous trois. C'est notre squat et c'est nous qui décidions qui pouvait rentrait. Dormir, qui rentrait, qui sortait. C'était chez nous, c'est nous qui décidions.
Tu décides comment ?
On impose nos règles. S'il n'y a pas de règles, c'est
donc
pas
genre
possible.
Genre, moi je veux rentrer, c'est quoi les règles ?
On parle avec les autres, voir si on t'accepte et voir si ça se passe bien. On essaye, si on essaye, on essaye. Si ça marche pas, ça marche pas, on te vire. Si ça marche, ça marche, mais après on reste décent aussi. Enfin, on n'est pas là à vouloir. À casser la gueule du gars parce qu'il nous plaît pas, non, juste on lui explique et ça se passe bien, quoi. S'il fait n'importe
quoi. C'est combien de temps la période d'essai ?
Je sais, non, ça peut.
Non, je te demande, t'as pris une semaine ?
Je sais pas, non, ça peut être un ou deux jours, comme une semaine, deux semaines, ça dépend comment le gars se comporte.
T'as eu des gars qui t'a dit c'est mort ?
Ouais, il y a des gars qui ont dit c'est mort direct.
C'était quoi le délire ?
C'était des Kaira, des Bacassal, enfin c'était des gars qui voulaient péter plus que leur cul et qui comprenaient pas qu'on était tous dans la même galère et qu'il fallait qu'on s'entraide. Et après, il y a s'entraider aussi, hein, mais c'est que les gars, ils étaient là pour faire n'importe quoi, foutre le bordel, et non, c'était pas possible. On les a virés, et puis voilà.
Toi, c'était tu choisis bien. Comment les gars qui t'accompagnent, que ce soit dans un squat, un abri de fortune
ou... C'est au feeling. C'est
ouais, mais t'as des règles d'or.
J'ai des critères aussi, oui.
C'est quoi tes règles d'or ?
C'est mes principes et mes valeurs. C'est mes principes, c'est que le gars ne soit pas un voleur. Enfin, qu'ils nous volent pas nous, c'est le principe de base, c'est qu'on se vole pas entre nous. Si on vole les autres, c'est pas grave, mais qu'on se vole pas nous, quoi. C'est un principe, c'est si on est dans la même merde, qu'on s'entraide. S'il y a à manger pour un, il y a à manger pour cinq. Enfin, c'est un principe, c'est ces principes-là de base, quoi.
C'est ça. Les petites techniques
pour trouver la nourriture ?
Non, pour vérifier qu'un mec il te vole pas.
Tu laisses traîner quelque chose exprès ? Tu dors à côté de lui, dans la même pièce, tu le fais dormir à côté de toi et tu laisses traîner un billet 10 ou n'importe quoi, ou un téléphone, ou un chargeur, n'importe quoi. Et tu le vois s'il a mis la main dedans ou pas, ou s'il l'a pris ou pas, tu vois. Si par exemple une soirée où certains ont bu, qui sont un peu bourrés, bah tu te dis, il va croire que toi t'es bourré, que tu te rappelles pas que t'as essayé le truc comme ça, mais non, tu te rappelles bien, tu l'as fait exprès, lui il va pas le savoir, il va le ramasser, il va le mettre dans sa poche. Le lendemain tu lui dis, oh garçon, il y a un souci, et puis voilà, ça se passe comme ça, c'est simple.
T'as un souvenir de ton meilleur compagnon de squat ?
Ouais, bah mon collègue avec qui je suis là, la Pierrick.
Ok.
Celui avec qui on a eu la cave et qu'on s'est fait virer hier, quoi.
Pourquoi ? Pourquoi lui, le meilleur
on
compagnon
s'est rencontré,
de squat ?
J'avais 16 ans, j'étais à la rue, je faisais un peu n'importe quoi, je dealais, je faisais n'importe quoi, et on a été hébergés chez les mêmes gens. Donc on a été hébergés 2-3 fois dans les mêmes appartements, on s'est bien entraidés et là à Lyon on s'est retrouvé à la rue en même temps. Vu qu'on se connaissait bien, qu'on sait qu'on se vole pas, qu'on a des principes de valeur et je lui laisserai mon chien volontiers, enfin pas ma vie, mais je lui laisserai mes affaires, tout, quoi. Donc je sais que je peux avoir confiance en lui et ouais, c'est mon meilleur ami, enfin il y a que lui où je ferai confiance, tu vois.
C'est quoi vos plans là du coup, les gars ?
Le plan c'est là je remonte dans 2 jours à Clermont pour mon jugement, et si le jugement se passe bien on redescend ici. Il achète son camion, il a mis son. Comment ça s'appelle ? Il a mis son chômage de côté, soit pour passer son permis, soit pour acheter un camion. Et à la suite, il passe son permis s'il n'a pas passé le permis et on prend les affaires, on se barre, quoi. C'est là, moi, je l'aide à payer le camion, à faire ce qu'on peut pour que ça se passe bien pour tous les deux. Ça restera son camion, mais à la suite, lui m'aidera à payer le mien après quand j'aurai ce qu'il faut. Et on part d'ici après, quoi. On
là,
va
plan,
faire les saisons ou on va faire quelque chose. On aura la stabilité d'avoir un endroit où dormir ou laisser les affaires. Donc on pourra aller travailler comme ça. C'est mieux. C'est plus possible la vie en ville.
Vous l'aviez trouvé comment, la cave ?
Pierre, qui était, enfin mon ami, était, il dormait chez quelqu'un qui habite pas loin de la cave, et il a fait un tour pour se balader dans la ville, et il a trouvé cet endroit-là. Comme nous, on se balade souvent les soirs pour trouver des caves, ou trouver des endroits qui pourraient être squattables. On cherche, et on trouve ou on trouve pas, mais voilà.
Ça t'est arrivé une fois de squatter un endroit où le proprio s'est ramené le soir même ?
Oui. Bah là, mon jugement, c'est on avait trouvé une maison qu'on surveillait depuis quelques semaines, qui était vraiment abandonnée, il n'y avait aucun passage, rien, à Clermont-Ferrand, dans un petit quartier un peu désert. On a ouvert cette maison, j'y ai dormi, j'étais tout seul cette nuit-là. Et le lendemain matin, le propriétaire s'est ramené avec les flics, et ils m'ont fait virer. Et là, j'ai un jugement pour ça, justement, pour effraction de domicile. On pensait que la maison était abandonnée, au final elle n'était pas abandonnée. Et je passe pour effraction de domicile, ils appellent pas squat, ça squat, ils appellent effraction de domicile vu que c'était à quelqu'un. Donc voilà, c'était l'OL, le seul jour où le propriétaire s'est ramené direct.
Et du coup, dans ces cas-là, tu agis comment toi? Tu te barricades?
Si c'est les flics qui viennent avec, ils nous ordonnent de sortir, ils nous menottent, ils regardent si on n'a pas de choses dangereuses sur nous. Et on se rend quoi, enfin si les flics arrivent, on se rend, on va pas se barricader.
Non mais
t'es
plutôt du profilage.
Oui, c'est mieux, c'est plus simple, ça facilite les choses. Et si on se fait emmener en garde à vue, si la personne porte plainte, si la personne ne veut pas porter plainte, ils nous laissent prendre nos affaires, on se barre. Mais là, dans mon cas, moi, ils ont porté plainte.
C'est pour ça que tu vas
en jugement. Passe en jugement dans 2 jours.
Et tu le sens comment?
Je sais pas, j'ai pas mal lancé ses dents. Le juge, il me connaît depuis que je suis tout petit. Il va pas forcément être tolérant. Donc je peux prendre même si ce n'est que 3 ou 6 mois ferme. Si je prends, le souci, c'est que si je prends même que 3 mois, je peux pas faire d'aménagement de peine, vu que j'ai pas de domicile. Donc je peux pas avoir de bracelet, je peux pas avoir de choses comme ça. Donc l'aménagement de peine sera pas possible. Donc ce sera forcément 3 mois en prison. Donc je sais pas, on verra bien.
Okay,
c'est ça le souci en fait. C'est que j'ai pas de domicile, donc l'aménagement de peine n'est pas possible. Donc ce sera 3 mois ferme à faire quand même quoi. C'est ça le truc.
Pourquoi t'as connu des cas de figure où des gens ont squatté et du coup ils...
Bah même pour X raisons, mais oui, 3 mois par exemple c'est rien, c'est pour une petite peine, pour une petite chose, genre une effraction de domicile. Et vu qu'ils avaient un domicile ou même en foyer ou quelque chose, ils avaient le bracelet électronique. Donc ils ont pu faire leur aménagement de peine et être tranquille. Moi là je peux pas être dans ce cas de figure là. Ouais. C'est pas possible.
Tu étais depuis combien de temps dans le squat à ce moment-là? Du mec là pour le jugement.
C'est une nuit, une matinée quoi. Une nuit, une matinée, c'est tout.
A plus. Donc du coup là la perspective, parce que le sujet c'est les squats, les arbitres de fortune, la rue, mais également le camion. Donc là le projet ça serait du coup le camion.
Le camion aménagé et à vivre à deux dedans, ça se passera très bien, parce qu'on a déjà vécu ensemble plein de fois avec mon collègue. Et partir faire les saisons quoi, pour au moins pouvoir travailler.
On va aller où?
Je sais pas encore, on verra, voir avec ce que lui, mon collègue, ou lui veut aller aussi. On verra très bien. Ça sera à l'arrache. Il y a peut-être son ex-copine qui doit peut-être venir avec nous, voir si elle accepte de tout plaquer et venir avec nous. Donc ce qui se passera, c'est que soit elle, vu qu'elle a le permis, c'est elle qui conduira le camion, le temps que nous on passe notre permis, ou alors lui conduira le camion s'il a passé ton permis, et moi en attendant, qu'elle a une voiture, on prendra soit une grosse caravane ou quelque chose, on se débrouillera pour rattacher à sa voiture et qu'on puisse rouler quoi. On se débrouillera.
Le nord, le sud?
Je sais pas. Le sud, je pense. Je pense.
Eh, ça se passe bien à Lille, ils sont cool. Hein.
Je pense. Ils vont partir avec les chiens aussi, donc ça pourrait être pas mal quoi. Ce sera mieux que la pleine ville pour eux quoi. Ils seront quand même mieux qu'en pleine ville sur du béton quoi.
Pour toi, s'il y avait à parler à vraiment ceux qui font les politiques de logement, tu dirais qu'est-ce qu'est le vrai besoin pour un sans-abri aujourd'hui par rapport au logement? Pas un squat, un machin, mais.
Un logement décent, juste ça, juste un truc, juste un logement. Enfin, pas besoin de 500 mètres carrés ou 200 mètres carrés, juste un petit truc quoi. Il y a tellement d'appartements vides que des gens ont
des secondes
résidences ou je sais pas non du tout.
3 millions.
3 millions d'appartements. Tu te rends compte qu'il n'y a pas 3 millions de SDF dans le monde? Si, peut-être. Mais,
non, mais là, déjà en France. C'est en France, je te parle 3 millions.
Ah, 3 millions en France. Il n'y a pas 3 millions de SDF en France.
200
000. Il y aurait de quoi loger 3 fois plus que le nombre de SDF qu'il y a.
Bah, 12
même
fois.
Encore plus, 12 fois, voilà, 12 fois.
13-14
fois, tu vois, c'est énorme quand même. C'est que, vu le nombre d'appartements vides ou d'appartements abandonnés ou de maisons abandonnées qu'il y a qui ne servent à rien, soit les réhabiliter ou faire ça par les SDF eux-mêmes, qui les réhabilitent eux et qu'après ils se débrouillent. Enfin, il y a toujours moyen de se débrouiller en fait. C'est que ces habitants qui sont vides, qui rapportent rien à personne, en se débrouillant, on pourrait leur apporter quelque chose au final quoi. On paierait un loyer misérable ou quelque chose et il y a toujours moyen de faire quelque chose.
Donc toi par exemple, demain je te dis vas-y, écoute, c'est simple, j'ai un logement vacant qui appartient à la ville, pas à un particulier. Je te file le logement si. Si vous réhabilitez sur X travaux et c'est un contrat de 5 ans.
Ah bah oui, carrément. Vraiment.
Tu dirais toi aussi sédentaire pendant 5 ans?
Ça dépend les conditions qu'il y a derrière, mais oui, pourquoi pas.
Ouais.
Peut-être, ça crée une stabilité, pouvoir rebondir peut-être. Après faire autre chose au bout des 5 ans, mais à voir ce que je... À voir, mais pourquoi pas. Ça peut être une chance de s'en sortir en plus.
Du coup, ma question c'était, dans tout ce que tu m'as dit, j'ai le sentiment que le plus important par rapport au logement, au-delà de dormir, c'est la sécurité des biens.
C'est ça, des biens et de soi, et ouais, carrément. Carrément, parce que là en étant dehors les affaires, si on les laisse dans un squat, on sait pas si le soir qu'on va revenir, les affaires sont toujours là. Si nous, pendant qu'on dort, on va pas se faire dégager en pleine nuit ou quelqu'un va arriver ou qu'est-ce qui peut se passer, tu vois. C'est ça, c'est vraiment la sécurité des biens et de nous-mêmes, quoi. C'est ça le plus important. Soit en dormant à même la rue, à même le sol devant tout le monde, il n'y a aucune sécurité, rien. Enfin, c'est pas possible. C'est pas possible.
Bien. Est-ce que tu as déjà eu la chance de dormir dans un hébergement solidaire? Genre des personnes qui offraient la nuit, un soir,
ouais,
exceptionnellement, ou. Ouais. Je parle pas de famille d'accueil, hein.
Oui.
Tu m'en racontes une?
Je faisais la manche à Clermont-Ferrand, à la plaine, vers Croix de Neyras, vers la ZUB, c'est une petite cité. Et il y a un fournil des pistes, ça s'appelle, je faisais la manche devant. Et c'est pas mal de musulmans qui sont là-bas, mais il y avait une vieille dame et son mari, des anciens, qui me voyaient assez souvent et qui je discutais bien. Et j'étais hébergé chez quelqu'un à ce moment-là. Mais 2-3 semaines après, cette personne ne m'hébergeait plus, j'étais dehors.
T'es intéressé combien de temps ?
Chez cette personne, enfin, chez les vieilles personnes. J'étais hébergé chez quelqu'un avant.
Ok.
Et je suis resté 3-4 mois chez cette femme, elle m'a viré. Donc je me suis retrouvé dehors et cette vieille dame et ce vieux monsieur m'ont parlé, m'ont proposé de venir manger chez eux juste le soir, de boire un café. Je suis allé manger. On a bien discuté. Vu que j'étais pas quelqu'un de mauvais, que j'étais pas quelqu'un qui allait les voler ou faire quelque chose de mal, ils m'ont proposé une nuit. Juste une nuit au lieu de dormir dehors dans un hall d'immeuble quoi. J'ai dormi la nuit là-haut et ça s'est très bien passé. Le lendemain ils m'ont fait des lessives, j'ai pu me doucher, me raser. C'était super cool, je peux manger chaud. Le lendemain on a mangé ensemble le midi, après j'ai bougé quoi. Je suis parti et je suis venu à Lyon du coup. C'est le soir avant que je vienne à Lyon.
C'était le soir avant que je vienne à Lyon. Bah, il fait des traits d'union, salopard.
C'est ça. C'était super, c'était des gens super bien. Pourtant, c'était des gens peut-être de 70 ans. 60 ans pour elle, 70 ans peut-être pour son mari. Et des gens qui auraient pu avoir peur que je les vole ou X raison quoi. Non, pas du tout, ils m'ont aidé et puis voilà, ça s'est très bien passé.
Et à l'inverse, ça serait quoi à toi ta crainte d'aller dormir chez quelqu'un un soir? Parce que c'est marrant, mais c'est facile.
J'ai dormi chez plein de gens différents, chez des gens, des fois c'était bizarre. Ouais, j'étais avec une fille, on était ensemble et on a été hébergé chez un mec une nuit. On a dit bah vas-y, tu peux nous héberger, on y va quoi. On s'est retrouvé que c'était un gars hyper bizarre, c'était hyper sale, c'était vraiment très insalubre, qui a été créé à soi plein en pouvoir. On s'est barré, on n'a pas pu y rester, tu vois. On a préféré dormir dehors à deux quoi. Mais ouais, il y a tous les cas de figure. Les gens qui peuvent nous aider, ça peut être des gens super bien, comme ça peut être des gens ignobles. Genre, ils peuvent héberger des gens pour leur faire des.
Enfin... Non, parce que tu vois, on réfléchit souvent et on se dit ouais, mais ça a l'air. On peut être exigeant des fois quand on veut héberger quelqu'un qui est à la rue, mais dans l'autre sens ça marche aussi. C'est quoi tes exigences à toi dans un hébergement solidaire, dans le sens comment toi tu...
Pas forcément d'exigences, mais juste de pouvoir dormir bien quoi, enfin c'est tout. Juste pouvoir dormir bien et de pouvoir me laver, c'est tout. J'ai pas de plus grandes exigences, pouvoir me laver, être bien et juste dormir convenablement, c'est tout. Même si je dors sur le sol, c'est pas grave, je dors. Genre juste dormir sereinement, tu vois, c'est tout.
Parce que là, tu vois, on est en train de réfléchir, il y a plein d'initiatives solidaires qui sont en mode hébergement de personne à personne à la rue pour un soir. Super. Et en plus, dans le cadre de ce que tu sais et tout, on se dit, bah en fait, on pourrait tester. Il suffit que nous, on connaisse quelqu'un, tu vois.
Et que ce soit des gens qui on peut faire confiance aussi, quoi. Parce que tous les gens à la rue sont pas de confiance non plus, c'est ça le délire. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent plus nous aider à cause que certains ont fait n'importe quoi. Nous, là, clairement, il y a pas mal de gens qui aident, qui hébergent des gens à la rue, qui proposent une nuit, un repas ou quelque chose. Et à chaque fois, ces gens les volent. Ou leur font des choses qui ne sont pas bien, leur veulent soit l'argent, soit leur veulent des biens, ce qui est un peu ridicule. Comme ça, après, les gens ne veulent plus du tout nous aider. C'est dommage, c'est à cause de ces gens-là qu'on n'aide plus du tout les autres. Donc, faut bien choisir qui aider aussi, quoi, c'est ça le truc.
Ça t'aiderait en quoi, toi, le format hébergement solidaire, à l'inverse de squat et compagnie? Ce serait quoi l'avantage de plus que tu verrais entre le squat et l'hébergement solidaire?
Le squat, c'est entre guillemets une stabilité, que là, l'hébergement solidaire, c'est une vraie stabilité. Ça me permettrait de pouvoir prendre douche, laisser mes affaires et pouvoir aller travailler le lendemain, par exemple. Si c'est qu'une nuit, non. Mais si c'est l'hébergement. Un peu plus long, on va dire, pour quelqu'un ou en particulier, ça pourrait l'aider à aller travailler, l'aider à pouvoir aller faire ses papiers. Parce qu'en étant dehors toute la journée, on fait la manche, mais on fait la manche pour manger, pour nos biens, pour nos chiens, pour tout. Et ça nous prend toute la journée d'avoir ça, donc on peut pas aller faire nos papiers, on peut pas aller chercher du travail, on peut pas faire ceci. C'est soit on choisit d'avoir de la nourriture, d'avoir ce qu'on a besoin, soit on choisit d'aller chercher du travail et d'avoir nos papiers, quoi. Et entre les deux, bon, on est obligé de choisir l'un ou l'autre, quoi. On peut pas faire les deux. C'est ça le souci, en fait.
Et on n'a jamais réfléchi à un truc, mais tu connais Fille au Père?
Oui, je vois ce que c'est.
Ouais,
ça existe, garçon au père?
Bah, on pourrait même se la racler à faire SDF au père, tu vois.
Ouais.
Et du coup, non, mais tu vois ce que je veux dire.
Oui, je vois.
Non, mais ça peut être
un projet.
Un projet. Tu verrais quel avantage à ça? Tiens, on vient de se le penser maintenant. Bon, tu vois, ça consiste à quoi au père? Elles font à bouffer, en gros, gamin.
Elles font à manger, elles s'occupent des enfants, elles nettoient et. C'est ça, non?
Ouais, ça va plus ou moins.
Ça s'occupe du loger, quoi.
Ça va. Ouais, mais bah, après, il y a le temps libre et tout, machin.
Bah, ça crée.
Tu prêtes, toi, ça?
Ça dépend pour qui. Si c'est vraiment pour un bourgeois qui nous traite comme des esclaves, non, loin de là. Mais si c'est quelqu'un qui prend ça d'une manière vraiment pour aider la personne, pour le faire rebondir.
Il te dit, écoute, c'est simple. Si mec, je paye 400 balles à un quelqu'un pour garder mes enfants.
Si c'est vraiment,
ça fait 10 fois que je te croise.
S'il fait ça en se comportant bien, d'une bonne démarche, oui. Si c'est quelqu'un en mode ouais, t'es mon esclave, travaille. Non, loin de là. Là, je le ferai pas. Je préfère démerde-toi et trouve quelqu'un d'autre. Mais si c'est d'une bonne façon, vraiment, ça part d'un bon sentiment et d'une bonne action, là, oui, pourquoi pas.
Un truc
carrément,
tu serais chaud.
Ouais, carrément, ça pourrait me sortir de la merde pendant un petit temps, oui. Je ferais pas ça des années et des années, mais pendant un petit temps, oui.
Tu vas garder les gamins?
Ça dépend des gamins, mais ouais, pourquoi pas, je sais pas, j'ai jamais essayé. Sait jamais. On peut pas savoir si on essaye pas, tu vois. C'est ça le truc.
Et du coup, excellent. T'as, on tient un truc là.
Carrément.
On fait un statut auto-entrepreneur.
Carrément.
Et basta, et on se prend pas la tête.
Et voilà, c'est parti.
On sort des 450 balles. Tu rigoles ?
Ouais, mais ça pourrait être propre.
Franchement, c'est un bon délire parce que ça rend service aussi aux citoyens et je pense
ça
qu'il y a.
Tout le monde.
Il y a des gens. Et puis, franchement, pour. Voir un petit peu comment ça se passe quand vous faites un abri de fortune ou en squat, les gars, vous mettez toujours des mecs sous l'aile. Tu mets toujours des mecs sous l'aile. Donc, mettre un mec sous l'aile ou t'occuper de gamin, c'est exactement le même procédé, tu vois. T'es en mode.
On est carré, on est propre, on n'est pas des clochards comme on dit. Mm-hmm. Nous, on prend soin de nous, on prend soin de ce qu'on est en train de faire, quoi. Enfin, on essaie de faire les choses, mais on essaye de les faire bien aussi, quoi. C'est ça le truc, c'est pas on fait quelque chose, mais on le fait à la rage, on le fait dégueulassement. On fait quelque chose, mais on le fait bien, quoi. Sinon, on le fait pas, quoi. C'est logique.
Ouais, ça me fait poser une question. Est-ce que l'inverse existe? On peut. Là, on parle beaucoup de toi, t'es hébergé chez des gens, on parle beaucoup de toi squatter et compagnie. Maintenant, je te pose la question à l'inverse. Si les gens, les gens vont l'entendre, il y en a un paquet, même 1000 personnes qui écoutent ces épisodes. Nous, on peut à l'inverse dormir avec toi? S'il y a une personne qui est curieuse, parce que tu viens de dire deux choses qui sont intéressantes, c'est que politiquement, pour comprendre la rue, il faut la vivre.
C'est vrai.
Et la deuxième chose que l'on vient d'énoncer ensemble, mec, c'est les squats, les logements et machin.
Ouais, donc je te pose la question. Dans une cave avec des souris, c'est pas même à tout le monde, quoi. Est-ce que les gens sont prêts à le faire?
Mais déjà, c'est peut-être par une.
J'exagère un peu en disant
ça. Ouais, mais
c'est
un peu de curiosité et un peu d'humilité de se dire, est-ce que, à l'inverse, je te pose la question, on peut dormir avec toi, mec, demain?
Bah, on en parlait avec Pierrick de ça, justement. On a un ami Lazare qui vit en appartement, qui héberge chez quelqu'un.
Et ah, vous connaissez les maisons Lazare?
Et il voulait voir ce que c'est de vivre dehors. Il voulait voir, on lui a dit non parce que c'est pas. C'est pas dans le bon but qu'ils voulaient faire ça, quoi. C'est juste pour l'appris, raconter aux autres, ouais, j'ai vécu à la rue, machin.
Ouais, tu regardes vachement la démarche, toi.
C'est ça. Je vois vachement comment est la personne. Comment
tu nous en parles, par contre, vite fait, Maison Lazare?
Non, c'est pas Maison Lazare, c'est un mec qui s'appelle Lazare.
Un mec qui s'appelle Lazare.
Ah, c'est un mec qui s'appelle Lazare.
Tu connais le concept des Maisons Lazare?
Non, du tout.
C'est simple, c'est moitié de jeunes actifs, moitié de sans-abri.
D'accord.
Il y a, je dis pas de bêtises, une vingtaine de maisons. Là, elle est à Fourvière, la maison.
D'accord.
Et du coup, c'est moitié de jeunes actifs, moitié de personnes à la rue. Je crois que l'hébergement, c'est. Rien pour certains qui sont à la rue, voire un peu. Et la contrepartie, c'est exactement ce que tu disais. On part du lien social. Ah, je n'en ai pas parlé de ça.
Non, du tout, je connais pas du tout.
Mec,
c'est bien.
Ouais. Tous les vendredis, ils ont des apéros. Genre pour que tu connaisses un peu le concept des compagnies. Je crois que ça réattaque dans deux semaines avec le confinement.
Oh, c'est cool.
Faudrait que tu jettes un coup d'œil.
Vas-y, carrément.
Maison Lazare.
Carrément.
Et l'objectif, ça part du lien social. Et leur objectif à eux, c'est de faire qu'en gros, ben, la plupart des gens qui sortent de la maison. Soit réinséré à leur manière, tu vois, c'est cool. Ah, tu connaissais pas?
Non, du tout. Parce que moi, je vois ce qu'ils font pour les gens qui sont en prison, ils les réinsèrent, ils leur donnent des logements et tout, tu vois. Mais pour les gens à rue, il n'y a pas du tout ça, tu vois. Limite, pour s'en sortir, je vais en prison, là, je m'en sors, après, on sort de la prison, tu vois, ce qui est un peu dommage de penser comme ça, tu vois. Mais ce truc-là, c'est pas mal, du tout.
C'est un truc qui te chaufferait, toi, comme
ça. Ouais, carrément, ça peut être propre.
Ouais, t'es avec des jeunes actifs.
C'est des trucs pour rebondir, c'est carrément bien.
Des tremplins.
Ouais, carrément, des tremplins. Et oui, du coup, parce que tu nous
écoutes. Du coup, je te posais la question, et donc, du coup.
Ouais, pourquoi pas?
Ok.
Pourquoi pas?
Ouais.
Faut que la personne soit bien aussi, quoi. C'est pas n'importe qui peut venir vivre comme ça, tu vois.
Parce que là, ce fameux Lazare, c'était quoi qui te dérangeait?
Bah, c'est juste que c'est un wesh, tu vois.
Ok.
C'est un gars qui est là pour cela. Après, il va se vanter auprès de ses amis. Ouais, moi, je dors dehors, je dors dans une cave, j'ai vu ceci, cela. C'est pas pour s'en vanter, tu vois. Tu dors dehors. C'est une expérience. Pour eux, ce sera une expérience. Mais, je sais pas, c'est le comportement de la personne aussi. Ouais, faut que le comportement de la personne soit aussi avec nous, que ça aille avec nous, tu vois. Si c'est quelqu'un avec qui on peut pas, on sent pas du tout cette personne, ce sera pas possible.
Si c'est un mec, ça fait un an qu'il te donne, tu vois, il est sérieux et tout ça.
Ouais, mais même pas s'il me donne pas, mais même juste quelqu'un que je vois que ça peut passer, oui, carrément. Si c'est quelqu'un que je vois que c'est pas possible, non, ce sera non, tu vois. Mais si c'est quelqu'un qui est correct et qui. Ouais, si, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas.
Bien.
Mais par contre, le truc, c'est que quand tu viens dormir dehors, c'est. Le premier jour, t'as pas de couverture, t'as pas de duvet, t'as rien, tu dors même le sol sans rien. C'est ça qui est compliqué, qu'ils se rendent pas compte des gens. Après, avec le temps, t'as des duvets, t'as des couvertures, t'as des affaires, t'as un sac militaire comme moi j'ai. Mais au début, t'as rien de tout ça, t'as rien, t'as même pas un sac, t'as rien le premier jour. Moi, dans ma part, j'avais rien le premier jour. C'était compliqué, quoi, très compliqué. Après, avec le temps, t'as ce qu'il faut, donc ça va. Mais ouais,
en
les
hiver,
gens qui se rendent compte qu'ils ont pas de carte bleue, donc on n'a pas d'argent pour aller acheter ce qu'on a besoin. Donc nous, on est obligé de faire la manche pour manger. Eux, s'ils viennent, qui dorment avec nous, ils vont dormir, mais le lendemain pour manger.
Du coup, l'hiver ça caille, pas de
l'hiver,
soucis.
L'hiver ça caille.
Et l'été, c'est quoi les problématiques?
Et l'été, le problème, c'est la chaleur. Si on n'en peut plus, on crève de chaud. Donc, nous, là, dans les caves, il fait frais, donc c'est cool. C'est pour ça qu'on va aussi dans les caves parce qu'il fait frais. Le garage où on était hier, il faisait très très frais, on était super bien. Mais ouais, c'est trouver des endroits au frais pour dormir, pour les chiens aussi, des endroits propres aussi, parce que l'hiver, l'été, les gens épuisent partout, ça pue. Donc, faut trouver des endroits propres aussi où se poser, quoi.
Et les animaux?
Et les animaux.
Les souris, machin.
Les
ça
souris,
sort.
Tout ça, ça sort. Nous, là, dans la cave, on a vu 2-3 petites souris passer, on a de la chance, c'était des petites souris, quoi. Mais où on était sous un pont avant, là-bas. Et il y avait des rats comme ça, quoi. un rat aussi gros que mon chien, quoi. C'est, ça fait peur quand tu vois ça en pleine nuit, toi, qui te guette derrière toi, qui attrape le sac. Il y avait la bouffe qui a tiré le sac et qui l'a ramené derrière. On avait plus de bouffe, du coup. Il a ramené le sac dans leur truc avec la bouffe pour tout bouffer. Tu te dis, oula, qu'est-ce qu'il va faire pendant que tu dors, tu vois, s'il va te grimper dessus ou te grailler les pieds ou je sais pas, tu vois. C'est pas cool. C'est pas tout le monde qui peut supporter ça aussi, tu vois. C'est pas agréable, tu dors pas sereinement, du coup.
Donc il y a les ponts aussi.
Il y a les ponts aussi.
On va pas s'amuser à faire tout.
Et même sous les ponts, on se fait expulser, quoi. C'est ça le souci.
Ah.
Je dis que même sous les ponts,
pas la fin de cette histoire,
je dis que même sous les ponts, on se fait expulser
non, mais
à la fin.
C'est pas la fin de l'histoire, vous êtes fait expulser là-bas.
Alors là-bas, il y a le gars qui tenait le parking en dessous, le gérant du parking, enfin le gars qui surveille le parking, il nous a vu. Ça fait deux semaines qu'on y était, il nous a jamais vu. Il a éclairé, il nous a vu. Il a été super cool, super correct. Il nous a dit, écoutez, bah, genre, je lui ai expliqué que le temps qu'on bouge les affaires, qu'on trouve ailleurs, fallait bien 2-3 jours, quoi. Il a dit, vous savez quoi, vous avez une parole, j'ai une parole. Je vous dis, écoutez, je vous laisse 2-3 jours. Dans 2-3 jours, j'appelle les flics pour qu'ils viennent vous dégager. Si vous avez de partir avant, pas de soucis, ça se passera bien. On lui a donné ma parole, il m'a donné sa parole, on est parti 2 jours après. Aucun souci. On est parti le soir même parce que ça pleuvait. On est revenu le jour d'après parce que ça ne pleuvait plus. Et il nous a vu, on a parlé avec lui, il a dit putain, vous avez une parole, c'est bien. On lui a dit, bah, c'est la première fois qu'on trouve quelqu'un qui a une vraie parole, qui nous dit pas on va appeler les flics dans 2 jours, mais qui les appelle le soir même, tu vois. Il avait une vraie parole et on est parti, ça s'est passé correctement. Ça s'est super bien passé avec ce gars-là.
Nice.
Mais on est parti sous un pont. Mais au fait, on se fait même virer de sous un pont quand même, quoi. C'est là le délire, quoi. Où ça gêne personne, ou. C'est incompréhensible. Incompréhensible.
Un vélo et une tente.
Ouais.
Ça te chauffe pas, ça.
Si, j'ai un vélo. Le vélo que tu m'as
non,
offert.
Non, mais je veux dire. Dormir dans la nature. On va dire moins dans la nature. Si problème, c'est la manche qui te ramène à la rue.
C'est ça. Et le souci, c'est ouais, c'est qu'on n'a pas de nourriture. On est obligé. Parce qu'on est de chasser, ramasser des champignons, ramasser des baies. Enfin bref, ça ne m'enchante pas spécialement. Et ouais, la manche, quoi. Sinon, on fait comment pour vivre? On fait comment pour laver les vêtements?
C'est à moins de 25 ans.
C'est à moins de 25 ans. Une fois que tu as 25 ans, tu as l'URSA, ça va, c'est très bien. Ça ne me dérangerait pas du tout de prendre mon vélo, ma tente, mon sac et d'aller vagabonder. Ça ne me dérangerait pas du tout. Mais le souci, c'est avant 25 ans, bah t'as pas ça. Donc c'est compliqué avant 25 ans de survivre. Quoi. C'est ça que les gens ne se rendent pas compte.
Bon, M, stylé, merci beaucoup pour tous ces échanges. On a échangé sur,
c'était cool.
Sur plein d'histoires. Et ah ouais, elle a mal à l'oreille.
Ouais.
Il s'est fait mordre.
Ouais, il jouait avec le chien de Camille. Tu sais, la petite blonde avec qui je. Et ça l'a fait un piercing, quoi. Du coup, je désinfecte tous les jours et j'en prends soin. Ça va.
Merci pour cet échange, mec. Bon jugement dans 2 jours.
Je te remercie.
On se tiendra au jeu, on actualisera un peu là-dessus pour voir un peu ce qui se passe dans la réalité
de
la rue.
Si moi je chope mes 3 mois ou 6 mois de prison, bah je redescendrai peut-être pas forcément ici. Mais si tout se passe bien, bah je redescends ici et on se reverra ici.
Mais tu donnes des nouvelles.
Je donnerai des nouvelles, j'ai le numéro, j'ai le téléphone. T'inquiète.
Merci ma poule.
Ouais, merci. Je te remercie, Alan.
Zion, un petit mot. Imagine, mange un Nicolas.
Ça, c'était cool.
Bon, j'espère que cet épisode t'a plu et qu'on a réussi à faire reculer toujours un petit peu plus les préjugés. Alors pour commencer, si tu veux m'aider, n'hésite pas à t'abonner sur ton site de podcast favori, donc Apple Podcast, Spotify ou directement sur Anchor. Pour suivre, n'hésite pas à donner ton avis et à mettre directement un commentaire sur ce que ça t'apporte et si tu aimes le podcast. Bien sûr, ce qui peut m'aider aussi, c'est de le partager si l'épisode t'a plu. Si tu veux me retrouver dans les différents réseaux sociaux, le mieux c'est sur Instagram directement à The Bike Riser, donc bike comme un vélo, Riser, R-I-S-E-R. Et sinon, si tu souhaites me soutenir financièrement, alors tu pourras me retrouver facilement sur Patreon en tapant Alan Ballester. Et donc tu retrouveras directement non seulement le podcast, mais ce qu'on fait de manière un peu plus large avec Rise. Voilà, merci à tous pour votre soutien et à la semaine prochaine pour un prochain épisode.